Bonjour l'espoir, ça va bien?
Oui.
J'espère que ça va mieux que ça. Ça va se passer en espagnol cet après-midi, c'est ça?
Oui.
En espagnol. Yes. De quel côté on prend, là?
L'Espagne.
Oh, l'Espagne. L'Espagne? L'Argentine?
Non.
C'est bon, ça. J'espère que vous allez être nombreux ici cet après-midi. On poursuit notre série dans Ruth. On a débuté une série dans un tout petit livre de l'Ancien Testament. J'insiste sur le fait qu'il est tout petit parce que vous avez l'opportunité de le lire dans ce cas-là. C'est vraiment 4 chapitres. C'est très, très court. Et donc, je vous invite à prendre le temps d'aller le lire. C'est un livre qui est particulier parce qu'on découvre la vie d'une famille qui a bien existé, qui est bien réelle, mais dans une époque très difficile de l'histoire d'Israël. Donc, on a le livre des juges qui nous raconte toute une période où Israël a été très rebelle, beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Et on a ce livre-là, le petit livre de Ruth, qui vient nous raconter l'histoire d'une famille dans cette époque-là. Et c'est inspirant. Personnellement, je suis énormément touché par le livre. Encore une fois, vraiment, ça touche mon cœur, ça travaille mon cœur. L'époque des juges, bien, c'est une époque qui ressemble à notre époque. La phrase qui revient constamment dans le livre des juges, c'est « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». C'est peut-être la meilleure manière de décrire l'Occident actuellement. Et dans le contexte biblique, là, c'est pas positif. Je comprends que même au Québec, là, si on disait « Mais écoute, c'est merveilleux, chacun fait ce qui lui semble bon », je pense même que les Québécois verraient une grande vertu dans ça. Mais ça implique le chaos, ça implique que le plus fort l'emporte sans cesse. Ça implique énormément d'injustices sociales si chacun fait ce qui lui semble bon. Et c'est à cette époque-là qu'on découvre cette famille. Et la semaine dernière, on termine sur une note vraiment triste. Alors, c'est une histoire d'immigration, hein, l'histoire de Ruth. À la fin du verset 5, on lit « Maclon et Kiljon moururent les fils de Naomi et d'Élimélec. Après qu'Élimélec soit décédé, Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Elle est seule maintenant, avec ses 2 brus, dans un pays étranger où elle ne connaît personne. Et pourtant, on a dit la semaine dernière, quand tout s'écroule, Dieu construit encore. » Et c'est ça l'histoire de Ruth. Matthieu va nous lire les versets 6 à 22 de Ruth 1. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Le passage de ce matin vient du livre de Ruth, le chapitre 1, les versets 6 à 22, dans la nouvelle édition de Genève. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort viens à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges.
Merci Mathieu. Ce matin, on assiste à un des plus beaux passages du livre de Ruth. C'est vraiment touchant. Honnêtement, une conversion, pour autant qu'on peut en voir dans l'Ancien Testament, qui est vraiment, vraiment, vraiment belle. C'est un moment où Dieu vient visiter son peuple. Naomi, vous allez voir, souvent elle dit des choses, c'est totalement vrai, puis en même temps, il y a quelque chose de brisé dans la foi de Naomi. Quand j'étais en train de préparer l'étude puis d'étudier le passage, je me disais, mais à qui je vais m'adresser dimanche matin? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui n'est pas chrétien? Est-ce que je m'adresse à un chrétien qui est nouveau dans la foi? Est-ce que je m'adresse à un chrétien qui est plus âgé dans la foi? Il y a vraiment tout dans ce passage-là. Mais ce qu'on trouve, c'est Dieu qui vient visiter son peuple. Dieu pourvoit, ça vient aux oreilles de Naomi, de Orpa, de Ruth, que la famine est terminée en Israël, ils entendent des bonnes nouvelles. Et Naomi l'interprète très bien, elle dit « Dieu vient visiter son peuple ». Et ça va les placer devant un choix. Parce qu'elle a quitté la terre d'Israël, elle s'est établie dans un autre pays. Et donc, on a trois personnages super importants dans cette scène-là qui, toutes les trois, sont placés devant un choix. Parce que lorsque Dieu vient nous visiter de sa grâce, ça nous place devant un choix. Comment est-ce que je vais répondre à ce choix-là, à cette grâce-là? Voici comment je résume l'exposé de ce matin. Lorsque Dieu nous visite par sa grâce, il nous appelle à répondre par une foi qui transforme notre identité. Et on va voir trois réponses différentes, une réponse qui vraiment est une réponse de foi. Le passage de ce matin rappelle déjà une chose essentielle. Si tu ne connais pas le Dieu de la Bible, une des choses que ce texte-là nous révèle, c'est que Dieu est toujours celui qui prend l'initiative de la grâce. Si tu es chrétien comme moi, c'est parce que Dieu a pris l'initiative de te faire entendre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est parce que Dieu est venu vers toi. Et je sais que certains d'entre nous, on peut avoir le sentiment depuis l'enfance de chercher Dieu. Non, mais moi, j'ai toujours cherché Dieu. Mais oui, tu ne l'aurais jamais connu s'il ne s'était pas révélé à toi. Jamais. Tu n'aurais pas pu connaître Dieu s'il n'avait pas pris l'initiative de combler cette distance-là entre lui et toi pour se faire connaître à toi. Et Dieu, ici, dans ce passage-là, prend l'initiative de la grâce envers Israël, envers Naomi, envers Ruth, envers Orpa aussi. On lit au verset 6. « Puis elle se leva, parlant de Naomi, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab, alors qu'elle est au loin, que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. » Ce thème-là, le pain, ça revient constamment à travers tout le livre de Ruth, parce que le pain représente le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui donne, celui vers qui je vais me tourner si je manque de pain. Et donc, ça revient constamment. Dieu visite son peuple. Et la grâce de Dieu se manifeste par le fait qu'il pourvoit et qu'il visite. Si vous avez déjà lu la Bible au complet, cette idée-là que Dieu vient visiter les hommes, Dieu vient visiter son peuple, Dieu vient sur la terre pour nous visiter. Il comble la distance. Et vous savez, lorsqu'on pense à Dieu, bien, Dieu est invisible. Moi, je vous fais une confession, je n'ai jamais vu Dieu de mes yeux encore. Ni dans une vision, ni en personne. Un jour, je vais le voir. Mais Dieu est invisible. Dieu est esprit. Et donc, il y a cette image qui revient constamment à travers la Bible lorsque Dieu vient et visite. Comme lorsque je m'invite chez toi ou tu t'invites chez moi. Puis on entre dans une relation. Naomi est consciente que Dieu a visité son peuple Et c'est une image extrêmement forte. En fait, même lorsque Jésus va faire des miracles, puis il va multiplier les miracles, puis les gens vont être là, puis ils vont dire, « Mais qu'est-ce qui se passe? » Je vous lis rapidement dans Luc 7, 16. « Tous furent saisis de crainte parce qu'ils voyaient tous les miracles que Jésus faisait, et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Il y a une conscience intérieure que Dieu vient vers moi. Et si tu es chrétien, tu as expérimenté d'une manière ou d'une autre ce sentiment-là que Dieu venait te parler, que Dieu s'approchait de toi. Pour certains, ça se fait avec beaucoup de simplicité, il n'y a pas une tonne d'émotions, pour d'autres, il y a des émotions très, très fortes. Mais ce sentiment que Dieu est en train de me parler, que des choses qui étaient peut-être sans importance à mes yeux hier, prennent tout leur sens maintenant. Et j'ai la conviction que Dieu est en train de parler à mon cœur à travers ça. Dieu vient vers nous. Jésus va le formuler autrement dans Jean 10, il va dire ceci, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Vous m'entendez souvent dire, le moment où tu sais que Dieu t'appelle, c'est lorsque la bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est plus seulement une information intéressante, une information qui est peut-être pour les autres, mais au contraire, ça devient une espèce de mélodie qui commence à toucher ton cœur, comme une pièce de musique qui t'émeut, qui touche. Avant, c'était de l'info. Maintenant, c'est plus seulement de l'info. C'est quelque chose qui pourrait être pour moi personnellement. C'est la voix de Christ qui, par son esprit, est en train de t'appeler. Il est en train de te visiter. Et donc, lorsque je dis que la grâce de Dieu, Dieu initie sa grâce, bien, ça se manifeste ici dans le texte par cette visite. Dieu vient vers Israël. Israël qui a été rebelle, on est dans l'époque des juges, c'est une période difficile. Mais Dieu vient et visite. Dieu est toujours l'initiateur de la grâce, et on le sait lorsque Dieu commence à nous interpeller. Et une des questions que tu dois te poser, parce que moi j'ai dû me la poser avec le texte cette semaine, c'est est-ce que Dieu me visite, alors que j'étudiais le texte clairement, Dieu m'a visité, Dieu m'a parlé. Dieu m'a interpellé moi, pas pour l'Église, pas pour vous, pour moi, là, pour mon cœur. J'avais la conviction profonde que Dieu est en train de m'interpeller. Et tu dois te poser cette question-là ce matin. Est-ce que Dieu, par sa grâce, est en train de te parler ce matin? Peut-être parce que tu ne le connais pas encore, puis il t'appelle à lui. Tu vas voir une illustration extraordinaire d'une personne qui a fait un choix de foi. Mais la grâce de Dieu est en train de visiter aussi Naomi, une croyante très amère, qui a une conception de Dieu qui est brisée, qui est à bien des égards très, très vraie, puis en même temps très, très triste. Pourtant, Dieu est en train de la visiter, il est en train de l'appeler. Est-ce que Dieu te parle? C'est toi qui le sais, c'est entre toi et Dieu. Si Dieu te parle, si Dieu te visite, tu dois prendre une décision par rapport à sa grâce. Cet appel-là qu'il place sur toi. Et c'est ça qu'on voit ici. Chacun est appelé à répondre à cette grâce. On est tous placés devant une décision. Naomi se met en route pour Bethléem. C'est comme ça qu'elle répond, « Dieu a visité son peuple, je m'en retourne là-bas, je m'en retourne en Israël, je m'en retourne à Bethléem. » On lit au verset 7, « Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner au pays de Juda. » Et encore une fois, la relation que Naomi a avec Dieu, c'est, il y a quelque chose de brisé, il y a quelque chose d'étrange dans son rapport à Dieu. Sa foi, je dirais, est très pragmatique. C'est le mot que j'ai utilisé la semaine dernière pour Élimélec, lorsqu'Élimélec est en Israël, il est dans la terre promise, il n'y a pas de nourriture. Il entend parler que dans le pays de Moab, il y a de la nourriture. Il dit, écoute, Dieu, on revient, peut-être, éventuellement, je ne sais pas, mais il y a de la nourriture là-bas. Je sais que tu es le Dieu qui pourvoit, mais pour l'instant, je vais aller voir ailleurs. C'est le choix que fait Élimélec. C'est un rapport à Dieu qui est hyper pragmatique, je vais dire utilitaire. C'est ça qui me laisse perplexe avec Naomi pendant que j'étudie encore une fois ce livre-là. Je vois une femme qui connaît beaucoup de choses sur Dieu, qui croit vraiment que Dieu est au contrôle, que Dieu est souverain. Ça revient constamment dans les paroles de Naomi. Elle croit dans un Dieu tout-puissant. Mais son rapport avec ce Dieu-là a quelque chose de brisé parce qu'elle a un rapport utilitaire avec Dieu. Regarde, Seigneur, je sais que tu as donné des promesses. Il semble que tu ne pourvois pas pour l'instant. Dieu va comprendre. On va se rendre à Moab. Et je vois cette même attitude-là réapparaître dans les conseils qu'elle donne à ses deux belles filles. Je veux dire, dans un sens, elle est remplie de compassion pour ses deux belles filles. Elle leur dit, écoutez les filles, moi je suis israélienne, je suis juive, je m'en retourne dans la terre promise, je vais retrouver les miens, je connais ma famille là-bas, il y a quelqu'un qui va prendre soin de moi, je devrais réussir à m'en sortir. Vous allez être des étrangères, puis je veux juste vous dire, les Moabites en Israël, ça ne passe pas. Là. Moi, je n'ai pas de mari à vous donner, je ne vois pas comment je vais vous pourvoir à des maris, je pense que vous devriez retourner dans la maison de votre mère. C'est intéressant, c'est... Normalement, on l'irait dans la maison de votre père. Mais là, il y a cet accent, il y a une relation intime entre Orpa, Ruth et Naomi. Elle est maintenant leur mère. Mais elle leur dit, non, soyons réalistes, les filles, come on. Retournez dans la maison de votre mère. Ça implique beaucoup de choses. Retournez vers vos dieux. Parce que, je veux dire, il y aurait eu d'autres conseils à donner. Naomi aurait pu dire... Écoutez, je sais que ce n'est pas facile de suivre l'Éternel. Des fois, tu sais, il y a des épreuves. La vie de la foi, lorsqu'on suit Dieu, ça peut être extrêmement difficile. Mais Dieu vous a accordé une grâce. Je sais que ça n'a pas de l'air d'une grâce. Vous avez perdu vos maris. Dieu vous a accordé une grâce. Parce que nous, on a quitté le pays, vous avez découvert l'Éternel. Vous avez découvert le roi des cieux. Vous avez découvert le seul vrai Dieu qui vous a amené à entrer dans une famille qui connaît le seul vrai Dieu, pas des idoles, pas des faux dieux. Venez avec moi, on va faire confiance à Dieu. Ça aurait pu être ça, le conseil, non? Il me semble. Mais en même temps, soyons réalistes. C'est beau la foi, c'est beau croire, Dieu est là. Dieu est là quand il est là, quand il n'est pas là, ben tu te débrouilles. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont un rapport très utilitaire avec Dieu. Les promesses sont bonnes si Dieu avance puis répond selon ses promesses. Mais quand il faut continuer à avancer juste sur la base des promesses, par la foi, bien, Dieu comprendra, je vais prendre mes moyens, moi, je vais passer à côté. Et c'est ça que je vois chez Naomi. Donc, elle leur dit littéralement, retournez vers vos faux dieux. Je pense que votre avenir est meilleur en Moab. Si tu n'as jamais lu l'Ancien Testament, peut-être que tu dis, je ne comprends pas, Yannick, de quoi tu parles, mais si tu as lu l'Ancien Testament, tu sais de quoi je parle. Littéralement. Elle dit à ses deux belles filles, retournez vers les dieux de Moab. Je pense que votre avenir est meilleur entre les mains des dieux de Moab. Moi, de mon côté, il semble que la bénédiction est là-bas. Moi, je cours après la bénédiction, je m'en retourne là-bas. Très étrange. Elle a un rapport qui est utilitaire et ça va sortir après dans son cœur. Ce n'est pas un rapport où il y a une foi entière qui vient nourrir une joie paisible, une confiance en Dieu. Pourtant, sa théologie est impressionnante à Naomi. Je veux dire, elle aurait pu dire finalement, le Dieu d'Israël n'existe pas. Je ne crois plus en lui. Non, ce n'est pas le cas. Pas du tout. Mais elle croit étrangement. Naomi retourne en Israël, à Bethléem. Qu'est-ce que Orpa va faire? Bien, Orpa décide de suivre le conseil de sa belle-mère, puis elle va retourner vers sa maison. Versets 14 et 15, puis c'est une relation d'amour. Hein? Pensez pas là, que Orpa est juste comme, c'est ça, je pense que t'as plus rien pour moi, je m'en vais. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Elles élevèrent la voix au verset 14 et pleurèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ça vient d'un bon fond de la part de Naomi. Elle veut prendre soin d'elle. Puis Orpa dit, écoute, je pense que c'est sage, je comprends. Je prends la décision qui me semble la plus sage. Et ça se peut que tu décides jusqu'à ta mort de rejeter le Dieu de la Bible parce que de manière pratique, tu dis, ouf, ça a l'air de coûter cher cette affaire-là. Suivre la voie de Ruth, suivre la voie de Naomi, ça a l'air de coûter cher. L'Évangile, la foi chrétienne, est une folie aux yeux du monde. Et donc, ça se peut que tu restes juste comme, juste sur le bord, puis tu dis, c'est beau la Bible, ça m'encourage, il y a des bons principes, mais de là à, garde, soyons sages, là. Dieu ne nous a pas dit, tu seras sage dans ton rapport avec moi. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Hein? C'est une relation d'amour. C'est une relation de foi à laquelle on est appelé. Et de là coulera une sagesse qui vient de la foi. Elle retourne dans la maison de sa mère, là où elle est connue, là où les gens vont avoir un sentiment de responsabilité envers elle. Ça implique qu'elle retourne vers les dieux de sa famille, dans le fond. Est-ce que sa décision, c'est la décision de la foi? Ce n'est pas la décision de la foi. C'est la décision d'une certaine raison, d'une certaine sagesse, d'une sagesse du monde qui compte sans Dieu. Et quel est le choix de Ruth, la Moabite? J'aime ça, le passage nous rappelle toujours, c'est une Moabite. Le passage va terminer en nous rappelant que c'est une Moabite. Ruth répondit au verset 16, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Elle dit, « Je vais mourir là où on va t'enterrer. » C'est tout un engagement. Et puis, dans le fond, on a une autre histoire d'immigration. La semaine dernière, on avait une histoire d'immigration très pragmatique, qui a très, 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 très mal tourné. Puis là, on a encore une histoire d'immigration. Cette fois-ci, c'est Ruth qui a dit, « Moi, je brûle les ponts. Je brûle le navire quand je débarque là-bas. Je ne retournerai jamais là-bas. Je vais mourir ou tu vas mourir. » Mais Ruth choisit Dieu. Ruth choisit d'avancer par la foi. Et en Ruth, on a l'image de ce que c'est être un disciple. On a vraiment l'image de ce que c'est être un disciple qui vient marcher à la suite de Jésus. Il y a un coup pour suivre Jésus. J'ai envie de vous dire qu'avec Ruth, on a la plus belle histoire de conversion de l'Ancien Testament. Oui, bien sûr, on ne parle pas d'une nouvelle naissance avec l'Esprit qui vient vivre en elle, mais c'est littéralement une conversion, là. Elle laisse père et mère, elle laisse sa maison, elle laisse sa culture, elle laisse ses dieux pour adopter un autre Dieu, un autre peuple. C'est ça, suivre Jésus. Dans Luc, Jésus appelle des hommes et des femmes à venir à sa suite, puis on lit au verset 61-62. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » La grâce de Dieu, lorsque Dieu nous visite, la grâce de Dieu nous place devant des choix. Et si tu n'es pas chrétien ce matin, Dieu t'appelle à faire un choix. Et il y a un coût qui vient avec ça. Suivre Jésus-Christ, il y a un coût qui vient avec ça. Je laisse mes anciens dieux, ce qui guidait ma vie, pour suivre le seul vrai Dieu, qui maintenant va guider ma vie. Et Ruth est celle qui exprime, qui manifeste cette foi-là. Ruth choisit d'abandonner tout pour suivre Naomi et faire du Dieu de Naomi son propre Dieu. Et ça implique énormément de choses dans sa vie. Premièrement, Dieu visite son peuple, ça nous place devant un choix. On a vu trois personnes faire des choix. Deuxièmement, la foi transforme notre identité. Ruth va être transformée dans son identité. Regardez le verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth, littéralement, abandonne son ancienne identité. Littéralement. Elle va se convertir, elle se convertit au Dieu d'Israël. Elle décide de vivre dans un pays où, quand les choses vont bien et que le peuple obéit à Dieu, les lois honorent la parole de Dieu. Et donc, elle renonce à des pratiques qui étaient attachées à ses faux dieux, aux dieux qu'elle avait dans la terre de Moab. Et dans la profession de foi, parce que c'est ça, hein, c'est une profession de foi que Ruth fait, dans la profession de foi où elle dit « Ton peuple sera mon peuple, là où tu iras, j'irai, je vais vivre avec toi », j'entends les échos dans Lévitique 26:12. Dieu dit « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Voyez-vous, la foi chrétienne est une foi personnelle, mais elle n'est jamais une foi individuelle. Est-ce que vous comprenez la nuance entre les deux? Naomi a eu un choix à faire, Orpa a eu un choix à faire, Ruth a eu un choix à faire. Ruth a fait le choix de la foi, ça veut dire qu'elle va être intégrée au peuple de Dieu. Et donc, la foi est quelque chose de personnel. Jamais personne ne devrait te contraindre à croire. D'abord, on ne peut pas faire ça. C'est entre toi et Dieu, c'est très personnel. Mais ce n'est pas individuel. Parce que tu entres dans un peuple nouveau, tu entres dans une nouvelle identité. Et ce n'est pas que Ruth va complètement oublier son passé. Non, au contraire, souvent ça va être appelé Ruth la Moabite. Mais c'est une manière de raconter la grâce de Dieu. Quand je parle de mon passé avant que je sois chrétien, ce n'est pas pour m'en vanter, c'est pour dire, mais considérez combien Dieu était bon pour moi. Parce que Dieu m'a amené dans une autre vie. Ce n'est pas que je renie tout, ce n'est pas que j'oublie tout, mais je me réjouis de cette nouvelle identité qui m'est donnée. Ruth adopte un nouveau peuple avec ses valeurs, avec son Dieu. Elle quitte un peuple qui ne connaissait pas le vrai Dieu, un peuple dont les valeurs étaient très différentes de celles de la Bible. Et elle déclare, ton Dieu, c'est mon Dieu. C'est intéressant, en hébreu, il n'y a pas de futur. En hébreu, c'est littéralement, ton Dieu, ton peuple, mon peuple. C'est chose réglée. Et lorsque Naomi commence à insister, mais pourquoi tu ne fais pas comme ta belle-sœur? Ruth aurait pu dire, arrête, je me suis converti. Ça ne sert à rien d'insister. Je me suis converti. J'ai une nouvelle identité. Ton Dieu, mon peuple. C'est vraiment une belle histoire de conversion. Et j'ai envie de vous dire, toute personne qui décide de suivre Jésus-Christ, c'est une histoire d'immigration. Où je quitte quelque chose fondamentalement pour adopter une nouvelle identité. Et il y a des déchirements qui viennent avec ça. Pas que je ne veux pas parler aux gens que je connaissais avant, au contraire, mais c'est possible qu'ils cherchent moins à être avec moi, c'est possible. Parce qu'il y a des choses que je ne fais plus comme avant. Au jour de ma conversion, il y a beaucoup de relations qui ont changé très vite. Simplement parce que je n'avais pas les mêmes activités qu'avant. Ma conversion à moi était drastique. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais dans mon cas, ça a été drastique. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des relations que j'aurais aimé garder. Mais je t'ai rendu un chrétien. Et c'était moins intéressant pour certaines personnes. Ruth s'attache au Dieu et au peuple de l'Alliance. Comme je vous dis, pour moi, on a la plus belle conversion de l'Ancien Testament. C'est intéressant le commentaire de l'auteur qui dit que Ruth s'attacha à Naomi. Ce verbe-là, s'attacher, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans cette relation intime qu'on est appelé à avoir avec Dieu. C'est la relation aussi entre un homme et une femme. C'est le même mot, le même verbe, s'attacher qui est là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est fort. C'est fort comme déclaration. Dans Josué 23:8, « Mais attachez-vous à l'Éternel. » C'est pour ça que je vous dis, il y en a qui ont un rapport un peu pragmatique ou utilitaire avec Dieu, puis s'il regarde, pousse, mais, tu sais, faudrait quand même pas que tu me demandes que Dieu soit Dieu vraiment dans ma vie, là. Je peux le mettre sur la tablette des options puis des outils à utiliser. Quand ça fit, je vais vers lui. C'est pas que je t'ai abandonné, Dieu, c'est pas que je pense pas à toi. Écoute, de temps en temps, je vais avoir besoin de toi. Dans ces moments-là, je te dirai même merci. Mais, entendons-nous, il faut quand même être réaliste, là. Moi, je vis dans la réalité. pas dans la vie des flyés qui marchent par la foi, comme Ruth, qui abandonne tout. C'est pas possible. Si c'est ça ta conception de la vie chrétienne, c'est que tu n'es pas encore chrétien. C'est que tu n'es pas encore chrétien. Et Dieu t'appelle à tout abandonner. À tout abandonner pour le suivre. À dire, Seigneur, tout est sur la table. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Ma santé, mes relations, mes projets, mes péchés cachés, mes idoles. Tu peux tout prendre, Seigneur. C'est toi qui me diriges. C'est toi qui conduis ma vie. Ruth a décidé de s'attacher à Naomi par le fait même. Son Dieu, le Dieu de Naomi, est devenu son Dieu. Et lorsqu'on se convertit, on devient des gens de la maison de Dieu. On intègre un nouveau peuple, une nouvelle famille. C'est vraiment glorieux. Dans Éphésiens 2, 19, Paul va dire, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. » Ruth ne sera plus une étrangère. En fait, l'histoire est tellement belle que Ruth va faire partie de l'histoire de David, l'histoire de Jésus. C'est incroyable. Tu ne peux pas être plus intégré que ça. Tu es intégré à l'histoire du salut de l'univers. C'est incroyable. C'est incroyable. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Mais voyez-vous, quand Ruth arrive en Israël, j'ai aimé ça, un commentateur dit, il y avait quelque chose d'absolument, il n'y avait absolument rien de cachère chez Ruth. C'est une Moabite. Elle savait qu'elle serait aussi bien accueillie à Bethléem qu'un sandwich au jambon lors d'une bar mitzvah. OK, il faut... Vous irez faire une petite recherche là-dessus. Sandwich au jambon dans une bar mitzvah, je vous laisse faire une recherche là-dessus. Vous allez la rire plus tard. Mais c'est tout un pas de foi qu'elle fait. Parce que les Moabites sont haïs. Ils sont vraiment haïs. Le dernier élément que je veux voir avec vous ce matin, la grâce est plus grande que notre amertume. Voyez-vous, Naomi, je la trouve fascinante comme personnage. On peut comme tomber en amour avec Ruth parce que c'est la foi qu'on veut, mais en même temps, Naomi nous parle de nous. Nous parle de ces moments où, à quelque part, on entre dans un rapport très pragmatique avec Dieu, où on peut glisser dans l'amertume. Naomi est super lucide. Naomi voit l'amertume dans son propre cœur. Regardez le verset 20. « Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, qui voulait dire douceur, sweet. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, qui veut dire amertume, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » C'est intéressant comme interprétation, hein? Mara, on a vu ça plus tôt dans Exode, lorsque le peuple d'Israël est en train de voyager. Et ils arrivent aux eaux de Mara, et ils veulent boire parce qu'ils ont soif, puis l'eau goûte amère, et il faut que Dieu fasse un miracle pour que l'eau devienne douce, et ensuite il les conduit à un oasis. Job va dire dans Job 27:2, « Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. » Naomi est comme une chrétienne, un chrétien qui n'a pas accepté les conséquences de ses choix et qui blâme Dieu parce que Dieu l'a livré aux conséquences de ses choix. Naomi est comme une chrétienne, un chrétien qui est insatisfait de Dieu et qui a perdu la joie de la foi. Ce n'est pas qu'elle ne croit pas en Dieu, comme je vous dis, sa théologie est incroyable. Je veux dire, je suis certain que Naomi pouvait instruire Ruth sur le Dieu de la Bible. Elle pouvait ouvrir les Écritures, puis l'enseigner, puis lui expliquer qui est Dieu. Certains d'entre vous, certains d'entre nous, on peut expliquer qui est Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand on te regarde le visage, on n'a pas envie de ce Dieu-là. Tu connais les choses sur Dieu, tu peux tout expliquer sur Dieu. Mais quand on te côtoie, on ne côtoie pas cette grâce. Cette paix, cette foi, cette joie qui transcende les épreuves. Parce que l'amertume est venue s'installer dans ton cœur. Soit parce que ton rapport avec Dieu est très pragmatique et utilitaire. Dieu ne t'a pas donné ce que tu voulais. ou soit parce que les épreuves de la vie, comme dans le cas de Job, t'ont rendu amer et à quelque part, t'as perdu ta louange. T'as perdu ta louange. Tu n'es plus dans la louange. C'est le cas de Naomi. Et c'est une illustration super forte de ce qu'on devient nous lorsqu'on devient amer. Et cette semaine, Dieu me parlait à travers Ruth, me parlait aussi à travers Naomi. Puis je voyais un endroit où il y avait une amertume qui est là. C'est comme une plaie qui ne veut pas guérir. Chaque jour, tu te lèves, puis c'est encore ouvert, c'est encore purulent, c'est encore pas beau. J'ai dit, Seigneur, il faut que je m'occupe de ça. Il faut que je m'occupe de ça parce que moi, je veux marcher dans la joie que produit la foi. Naomi croit en Dieu, mais elle ne croit plus en lui. C'est ça que moi, je vois. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Elle croit vraiment, elle sait vraiment que le Dieu de la Bible, c'est le vrai Dieu. Elle n'a aucun doute là-dessus. Mais dans son cœur, il n'y a plus de louange. Il y a de l'amertume. Et les Écritures nous disent que l'amertume est destructrice. Elle détruit notre âme, nous entraîne dans toutes sortes de péchés. C'est intéressant, Naomi me fait penser au fils prodigue dans le Nouveau Testament. C'est différent, mais pourtant, le fils prodigue dans Luc 15, c'est une parabole que Jésus a racontée, une histoire. Versets 17 à 19, on lit, « Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Un fils qui vivait dans une maison riche, qui était ingrat, qui a décidé de quitter la maison de son père avec son héritage, qui a tout gaspillé, qui est allé vivre une vie de débauche. Puis il entre en lui-même, puis il dit, « Attends, je vais retourner dans la maison de mon père. » Il dit, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » C'est ce que je n'entends pas chez Naomi. Elle est lucide, elle dit, « Je suis rempli d'amertume. » Mais je n'entends pas cette voix-là de la repentance qui espère en Dieu. Et ce qui est extraordinaire dans le livre de Ruth, c'est que la grâce de Dieu est omniprésente. Dieu fait son œuvre. Quand tout s'écroule, Dieu construit encore, même pour Naomi. L'histoire ne s'arrête pas ici pour Naomi, là. L'histoire ne s'arrête pas ici. Mais nous, on doit marquer une pause. Puis réfléchir, où est-ce qu'on est dans cette histoire-là? John Piper dit, « Dieu est toujours en train de faire 10 000 choses dans ta vie. Tu n'en vois probablement que 2 ou 3. » Vous me direz, Naomi ne peut pas voir. Je sais qu'elle ne peut pas voir, mais elle n'a même pas les yeux de la foi. Elle ne croit plus aux promesses de Dieu. Elle sait qui est Dieu dans sa souveraineté. Comment va ta louange? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est présente? Ou est-ce que c'est l'amertume qu'il y a dans ton âme? Ça se peut que ta théologie semble très, très, très solide. Comme je dis, tu peux annoncer l'Évangile. Continue à annoncer l'Évangile, mais expose les gens à des chrétiens qui trippent vraiment sur Jésus, s'il te plaît. Parce que ton visage, ton cœur, tes paroles, ton attitude ne parlent pas de foi. Ça parle d'amertume. Et veille à ça, fais-en ta priorité absolue, afin que la louange revienne dans ton cœur. C'est quoi la différence entre Ruth et Naomi? Mais Naomi est remplie d'amertume. Elle retourne là où Dieu est en train de bénir, et elle revient le cœur amer. Ruth abandonne tout, puis elle marche par la foi. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre en avant. C'est vraiment un beau livre. Personnellement, ça me parle tellement. Dieu visite le peuple d'Israël par sa grâce. C'est le Dieu qui pourvoit, c'est le Dieu qui prend soin, c'est le Dieu qui restaure. Il est en train de reconstruire quelque chose. On s'en va vers une histoire qui va être merveilleuse. Puis on assiste à une conversion extraordinaire. Mais ce que je vois dans ce passage-là, c'est que lorsque la grâce de Dieu nous visite, on est tous placés devant des choix. Si tu es chrétien comme moi, tous les jours, Dieu te visite de sa grâce. Ce matin, le soleil s'est levé, ma Bible était sur mon bureau, puis j'avais des choix à faire. Est-ce que j'ouvre mes Écritures? Est-ce que je vais dans la prière? Est-ce que je vais à l'église ce matin? Qu'est-ce que je fais ce matin? Dieu me visite, Dieu m'appelle. Je peux faire d'autres choix. Je peux aller voir ailleurs. Je peux prendre une journée de congé. Je vais aller me reposer du Seigneur en faisant autre chose. Parce que ce n'est pas pratique, c'est moins reposant ce matin. Ouf, aller à l'église. Je suis allé la semaine dernière, c'est assez. Ça m'a frappé, je parlais avec quelqu'un dernièrement, puis j'entendais bien que son rapport avec Dieu, c'était un rapport de devoir. Ah, ça fait du bien de ne pas avoir à faire tout ça. Ça m'a frappé parce que j'ai dit, « Ah, OK, pour lui, c'est un devoir. Pour elle, c'est un devoir. Pour moi, c'est une relation. » C'est un peu comme si je disais à ma femme, « Ah, ça me fait du bien de ne pas avoir à aller sortir avec toi au restaurant. Ah, ça me fait du bien de ne plus prendre de marche avec toi. » Ça fait mal. Et voyez-vous, cette grâce, quand Dieu me visite le matin puis que je vois ma Bible sur mon bureau, Dieu m'appelle puis il m'invite. J'ai un choix à faire. Je peux aller prendre un temps avec lui. Mais chaque fois que Dieu nous visite comme ça, on a des choix à faire, on a des décisions à prendre. Et si tu fréquentes cette église puis tu n'as pas choisi encore la foi de Ruth, tu es là, tu es sur le bord, tu dis, « Ah, c'est intéressant. » Ma question pour toi ce matin, c'est, est-ce que tu entends la voix de Jésus? Si tu entends la voix de Jésus, c'est une grâce incroyable. Parce qu'il y a des gens à qui j'annonce l'Évangile et ils n'entendent rien. Il n'y a pas de foi. J'ai des gens à qui je parle de l'Évangile depuis des années dans ma famille qui me disent, écoute Yannick, ça ne me dit rien. Aucune arrogance ouverte, aucun, c'est pas du mépris. Ils disent, ça ne me parle pas. Je suis désolé, je trouve ça beau, j'aimerais avoir ta foi. Mais certains d'entre vous, vous avez la foi. Vous êtes convaincus que ce Dieu-là est le vrai Dieu. Et vous entendez l'appel de Dieu et vous résistez. C'est un choix que vous faites. Vous résistez parce que l'engagement de Ruth est trop grand pour vous. Vous n'êtes pas prêt à devenir des immigrants spirituels pour dire « Ton Dieu, c'est mon Dieu. Ton peuple, l'Église, c'est mon peuple. » Et Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. J'aimerais ça prier pour nous tous. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence pour t'adorer ce matin parce que t'es incroyable. Ta parole est juste incroyable. Moi, je suis tellement béni, Seigneur, d'étudier les Écritures, de marcher avec Ruth, de marcher avec Naomi, avec Orpa, puis de voir ces vies réelles me mettre au défi, moi, d'examiner mon cœur pour voir s'il y a de l'amertume, s'il y a un manque de foi, s'il y a un manque de joie en toi, s'il y a un manque d'engagement. Ça me fait tellement du bien, Seigneur. Et je te remercie pour ta parole. Elle est précieuse pour mon âme, Seigneur. Et je veux te prier pour chacun d'entre nous, toute l'Assemblée. Certains d'entre nous, notre rapport à toi est un rapport utilitaire. On est devenus des pragmatiques de la foi. On prend ce qui est utile, on prend ce qui répond, puis on se dit, on verra plus tard. Dieu comprendra nos compromis. Dieu comprendra nos errances dans le pays de Moab. Dieu comprendra que d'autres choses que toi, ô Dieu, nous comptent. Et l'amertume vient s'installer dans notre cœur. La foi ne semble plus aussi fonctionnelle pour apporter la joie. Je te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont habités d'amertume et qui ont perdu leur louange, Seigneur. Oh, Seigneur, visite-les. Visite-les de ta grâce, Seigneur. Que ce soit la priorité de chaque heure de venir dans ta présence, Seigneur, et de confesser. J'ai quitté la maison de mon Père, mais je vais rentrer et je vais prendre ce qu'il veut me donner. Je vais rentrer dans la maison de mon Père parce que je sais, comme le fils prodigue, que mon Père m'attend à la maison. Seigneur, viens visiter ceux qui te connaissent et qui sont habités de l'amertume de Mara, Seigneur, de Naomi, qui ont perdu leur louange. Viens, Seigneur, les visiter par ta grâce, qu'ils puissent entrer dans la confession, Seigneur, avec larmes, pour déclarer que tu es le Dieu vivant, que tu es le Dieu des promesses et que tes promesses, tu les accomplis, Seigneur. Ramène-les dans la marche de la foi, là où se trouve la paix et la joie véritable, Seigneur. Et Seigneur, je te prie d'attirer à toi, fais entendre la mélodie de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, plus fort que toute autre chose à celui ou celle qui entend ce message, qui entend ta voix et qui résiste encore, tenter de rester dans le pays de Moab. Tenter de rester avec ses faux dieux, avec ses conforts, manquant le courage de la foi pour s'engager, advienne que pourra, à te suivre. Sauve, Seigneur Jésus. Sauve, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié. Amen.